secrétaire de tous les pays, unissez-vous, n'allez plus voir aucun film où Christian Clavier joue 500 euros pour avoir piétiné sa pelouse. Voilà, c'est tout.
Oui, bonjour, c'est Mehdi à l'appareil. Voilà, je vous appelais parce que je suis de plus en plus sidéré par les fermetures d'usines et la dernière en date, c'est l'usine Namora à Dijon. Voilà, à quel moment nous ouvriers on va s'occuper de reprendre en main nos usines. J'ai envie de lancer un appel aux ouvriers de chez Amora. Lancez un mouvement de solidarité autour de votre usine. Il faut qu'on l'occupe, il faut qu'on résiste et il faut qu'on produise nous-mêmes. À un moment donné, on va pas continuer à regarder les patrons fermer nos usines. Il faut à un moment donné qu'on les récupère et qu'on fasse ce qu'a fait l'Argentine. Donc voilà, c'est un appel à tous les ouvriers et aux habitants de Dijon. Il faut lancer un mouvement de solidarité autour de votre usine et qu'on puisse l'occuper et puis lancer de l'autogestion pour votre usine et qu'on nous on soit fiers ensuite de consommer des produits qui sortent de votre usine. On est capable de consommer des produits équitables qui viennent de l'autre bout du monde. On peut consommer des produits équitables qui viennent de nos usines qui sont à côté. Il faut maintenant qu'on se bouge et qu'on arrête l'hémorragie. Voilà, ciao.
Bonjour, c'est Thierry Prévost. Je vous appelle depuis le petit village de Vailly-sur-Saône dans le centre de la France, à 50 km de Bourges. Voilà, je suis assez étonné qu'on ne parle pas de l'OVNI qui a été vu au-dessus de Marseille le 11 octobre et repéré par deux cheminots. Et c'est le petit journal local, la Marseillaise, qui en a fait état. Il s'agissait quand même d'un OVNI de 200 mètres de long, avec plusieurs témoins, des témoins qui l'ont vu. Si vous pouviez creuser l'affaire, ça serait intéressant, parce que apparemment, j'ai fait des recherches de mon côté, et il y a des confirmations, notamment par le GEPAN et par les équipements radars d'un aérodrome assez proche du lieu d'où cet OVNI a été remarqué. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et merci, passez une bonne journée à vous.
Allô Agnès, bon là je suis au poulailler à Belle et on est en présence bon, d'un type qui se fait passer pour Daniel Mermet. Bon, je sais pas, je vais te le passer, mais il m'a dit est-ce que tu peux appeler pour avoir une réponse, parce qu'il avait peur que tu profites de son absence pour te casser quoi. Alors il a peut-être des choses à te dire.
Mais qui est là, qui se parle?
C'est le répondeur. Ah, je parle au répondeur. Voilà, on est avec Claude et on est au poulailler. Et c'est un moment formidable, très très heureux. Voilà, et je vais dire des choses très très plates et sans intérêt pour lui laisser la vedette. Bon, voilà. Ça, c'était en fin matière. Maintenant, la rançon, d'ici dimanche ce soir, pour qu'il puisse reprendre son émission lundi. Voilà. La rançon, c'est en l'échange contre Sarkozy. C'est avec Sarkozy qu'on a les comptes à régler. Bon, salut Agnès, la bise, et à tout le monde. N'oublie pas Charlotte et Pascal E. Et Christophe. Et puis tout le monde, quoi, en fait. J'ai cette peur en attendant de les citer tous. Salut Agnès. Non, non, mais il va bien, il l'a pas trop vu. Non, non, ça va.
Vous comprenez pas tout, mais nous non plus. C'était samedi à Bègle, un repère de la basse Égypte qui s'appelle le Poulailler, qui est un endroit absolument formidable. On a été reçus, mais alors, on a passé un moment délicieux, puis on a rencontré le camarade Claude, l'auditeur professionnel de la basse Égypte. Et voilà, on a passé des moments formidables à Bègle, mais aussi bien à Bordeaux, à Utopia à Bordeaux, au Quercy à Cahors. Je parle de cinéma, un magnifique cinéma, le Quercy à Cahors. C'est vraiment une grande salle à l'ancienne. Je crois qu'elle date de 1949, elle n'a pas bougé. Même si vous n'allez pas au cinéma, allez voir le cinéma. Tournefeuille, projection à Tournefeuille à Toulouse hier soir. Donc voilà, tout ça évidemment c'est des avant-premières de Chomsky et compagnie. C'était épuisant, c'était formidable. Toutes les salles étaient pleines, combles, on a refusé du monde. Bref, tout se passe bien, Chomsky et compagnie sortie nationale mercredi prochain. Au total, il y a plus de 120 salles qui prennent ce film, et dont une à Alger, ça, c'est, ça nous fait plaisir aussi. Voilà, je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure, préparez-vous, autour de Chomsky. Les débats sont passionnants, hein. Ça chauffe, ça va dans tous les sens, pas d'ailleurs toujours dans tous les sens. Ça revient sur un certain nombre de thèmes, et l'un des thèmes, c'est évidemment le progrès. À quoi ça sert tout ça? Est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'on progresse sur le temps long? Que pouvons-nous espérer? En fait, la situation est de plus en plus grave. Faut-il noircir la situation pour se motiver à lutter, etc.? C'est des thèmes qui sont toujours revenus. Et dans la série, on ne perd pas toujours. Il y a des évolutions qui vont dans un sens que nous souhaitons, ou que l'on peut souhaiter en tout cas. Là, remunicipalisation de l'eau. On avait traité ce sujet il y a déjà un certain temps. C'est un sujet qui vous passionne à juste titre, parce que c'est des choses de la vie quotidienne, et pas seulement de la vie quotidienne. C'est des choses qui relèvent du bien public et du service public. Et ça, les Français, on l'a vu encore au cours de ce week-end, ils sont foutrement attaché, et c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi ils nous écoutent. Ils écoutent France Inter, et notamment là-bas si j'y suis. Alors aujourd'hui, on apprend qu'à Paris, Veolia et Suez sont sur le point de perdre les eaux. C'est le titre astucieux de Libé aujourd'hui. Perdre les eaux, la ville reprend la main. Et ça, c'est quand même un signe cette lutte que nous observons passionnément depuis des années entre le public et le privé, l'eau étant depuis longtemps, c'est une vieille histoire privée en France. Bref, on va revenir sur ce thème aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. Voici moins vite, moins haut, moins fort, le journal parlé du chaos, comité anti-olympique de Grenoble. Alors que notre maire et notre chambre de commerce font tout pour que Grenoble obtienne les JO d'hiver de 2018 et organise par exemple, tenez-vous bien, des compétitions de ski en plein centre-ville ce début décembre, à grand renfort de neige artificielle et d'argent public, nous, au chaos, nous poursuivons notre campagne contre les jeux du fric, de la compétition et du gaspillage. Nous invitons tous les Grenoblois à deux grands événements anti-olympiques. Une conférence à bas les JO ce lundi 24 novembre à 20h à la Maison du Tourisme avec des sociologues critiques du sport et la revue Quel Sport. Et une fête anti-olympique ce dimanche 30 novembre à la Salle Rouge de Grenoble avec dès 15h des Jeux pour tous, anti-olympiques bien sûr, goûter, expo, librairie et surprise, et à partir de 19h, concerts, balles et vedettes. Venez avec vos amis, vos mamies et vos enfants. Toutes les infos sont sur notre site cao38.eu.org. Je répète, cao38.eu.org. À bientôt pour l'actualité du chaos.
Oui, bonjour. Alors voilà, moi je me posais une question sur le sondage Médiamétrie et les résultats de France Inter. Voilà, je me demandais, est-ce qu'on compte là-dedans le podcast? Parce que personnellement, je suis pas souvent chez moi, donc j'écoute assez peu la radio aux horaires normaux. Mais par contre, je podcaste beaucoup, et notamment France Inter, et notamment là-bas si j'y suis, que j'écoute religieusement tous les jours. Voilà, mais pas à la radio, en podcast, puisque je suis chez moi que le vendredi après-midi. Voilà, je me demandais si ça comptait. Allez, au revoir.
Est-ce qu'on fait payer l'air en France? Pas pour l'instant. Aux États-Unis, l'eau est une affaire municipale. Il n'y a pas d'eau privée aux États-Unis. Il me semble pas que les États-Unis soient un exemple de gauchisme exacerbé.
Donc là, vous avez une facture, mais c'est une facture municipale.
Ça, oui, c'est la municipale. Alors maintenant, vous voyez, toute nouveau net, je paye que 50 euros.
Voilà. Donc vous avez divisé votre facture par 3, presque.
Ah oui, facilement. Facilement.
Bon, moi, je vous dis, aujourd'hui, je ne ferai pas marche arrière. Hein. Je ne reviendrai pas dans le privé. Hein. Parce que, je vous dis, vous avez affaire à des banquiers. On travaille C'est des banquiers qui dirigent des sociétés. Comme je vous disais, on leur parle d'une bouche à clé, d'une vanne, d'un tuyau, de polyéthylène ou PVC. Ils vous regardent avec des... On est carrément à l'autre bout de la réalité, quoi. Voilà. Et tout ça pour satisfaire des actionnaires derrière.
Veolia. Rennes, c'est Veolia Town, quoi.
Sur Rennes, en fait, on s'aperçoit que ils ont la moitié du chauffage urbain sur Rennes. Ils détiennent l'eau, on l'a dit. Une partie à travers le jeu des filiales aussi, des transports donc de bus, Netraonic, c'est-à-dire tout ce qui est déchets, et l'usine de tri des déchets. Donc je ne sais pas si on se rend compte que là, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui reste aux citoyens, aux élus ?
Veolia, l'environnement est un défi industriel.
C'est Daniel Mermez et là-bas j'y suis avec François Ruffin, la bataille de l'eau.
Flight number 2, arriving from New York.
€3,65 au lieu de 2,90 €. Voilà ce que le mètre cube d'eau devrait m'être facturé. 2,90 € au lieu de 3,65 €. Il y a quand même des choses plus importantes dans la vie, hein, pinailler sur des factures d'eau, défendre le consommateur, nous réduire à cette désolation consommateur, domestiquer toute révolte, détourner toute rébellion vers le que choisir entre deux bottes de foin, deux portables, un bonnet blanc ou un blanc bonnet. Il y a quand même des choses plus importantes. Oui, bien sûr qu'il y a des choses plus importantes. Il faut peut-être rappeler qu'il y a 1,5 milliard d'êtres humains qui, sur cette planète, à l'heure où je vous cause, n'ont pas accès à l'eau potable. Il faut savoir que 2,5 milliards ne bénéficient d'aucun système d'assainissement. Il faut savoir que 5 millions de personnes dans le monde, surtout des femmes et des enfants, meurent chaque année pour des problèmes liés à la qualité de l'eau. 5 000 enfants meurent chaque jour des suites d'une maladie liée à la mauvaise qualité de l'eau. Pourtant, les ressources en eau suffisent pour l'instant, mais pollution, mais réchauffement de la planète, mais captation de ce bien vital. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'eau de façon générale, planétaire, mais on va se limiter à notre petit hexagone. Et dans notre petit hexagone, on constate, si l'on lit les statistiques de l'INSEE, les chiffres fournis par l'INSEE, qu'en 10 ans, le prix de l'eau a grimpé de 40%. C'est ce que dit aussi la Cour des comptes, augmentation de 30% entre 1995 et 2003. Surprenant. Surprenant car il y a en matière d'eau une exception française. Alors que on l'a entendu dans les propos qu'on vient de diffuser, la majorité des pays du monde ont une gestion de l'eau par les États, par les pouvoirs publics. Chez nous, à plus de 70%, l'eau est gérée par de puissantes multinationales, General des Eaux, Lyonnaise des Eaux, ou la SOR, filiale de Bouygues. On dit plus Lyonnaise des Eaux, on dit Ondéo. On dit plus General des Eaux, devenu Vivendi. On dit plus Vivendi, on dit Veolia. Mais tout ça, c'est la même chose. Or, c'est une exception française. Et cette exception française On agace plus d'un, on étonne plus d'un parmi ceux qui, loupe en main, regardent leur facture d'eau et qui se demandent pourquoi on paye, pour qui l'on paye et qu'est-ce qu'on paye. Ça dure depuis quelques années et aujourd'hui, il y a un certain nombre de municipalités qui ont décidé de remunicipaliser la régie de l'eau. Alors que bien sûr, depuis bientôt un quart de siècle, on privatise, c'est irréversible la privatisation, c'est moderne, c'est comme ça, c'est dans le coup, on n'y peut rien, et tout ce qui est de domaine public est ringard, est archaïque, français, qui s'agrippe encore et qui s'agit de moderniser, qui doit, eh bien, voilà, la modernité, elle serait peut-être, enfin en tous les cas pour ce qui concerne l'eau, de remunicipaliser. Et c'est un mouvement quand même assez surprenant, dont on parle guère finalement, par rapport à l'importance de ce qui n'est pas une marchandise, mais un bien vital, que ça nous a intéressé et l'on espère vous y intéresser aussi avec François Ruffin jusqu'à 16h dans la Bastille qui suit.
Quand les cigares y changeront de bouche, quand les starelles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin? Quand les gibus y changeront de tête, quand les babous elles changeront de doigts, quand l'homari changera fourchette, les employés, on sera les rois.
Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
Remarquez même en Rockefeller, je resterai comme un fils d'ouvrier, qu'un employé, un bas salaire, c'est une chose à pas oublier.
Oui, mais...
Dès quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas qui changeront de derrière, qui c'est qui changera de bignou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise. Alors la vie, les gentlemen,
il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
Ils changeront de bouche, quand les starelles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tiède, quand les bagouses elles changeront de doigts, quand l'homère il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
La 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 la, les PDG.
Ici, ça s'appelle les Buffins, donc c'est là où nous nous habitons. C'est le siège social de Barrage, mais c'est la maison d'habitation. Les Buffins, en patois, en occitan, c'est cabufort, ça souffle. Donc c'est la langue occitane, ça souffle. C'est parce que nous sommes tout à fait en haut d'une colline et on est la première vraie colline depuis la mer. Donc quand le vent vient, il y a toujours un peu de vent. Et quand il vient du nord, quand il fait froid, il vient vraiment du nord, il fait vraiment froid.
Donc, dans la salle à manger, les chaises, c'est voilà. Pas des chats dessus, c'est des dossiers, quoi.
Le problème de pollution avec les usines. Là, l'autre, c'est les antennes.
Et après, y a
plus... On manque de chaises, quoi, pour tous les dossiers.
Alors voilà, la dame c'est Michel et le monsieur c'est Yvan et ils s'appellent tous les deux Tricard. Voilà, c'est ainsi. Et nous sommes à Palais-sur-Vienne, dans la banlieue de Limoges. Et qu'est-ce qu'on fait là ? Eh ben, nous sommes au siège, amis auditeurs, de l'association Barrage. Et pourquoi ? Eh ben, comme son nom l'indique, l'association Barrage entend faire barrage à la privatisation de l'eau, à la régie déléguée à des grandes, assez grandes sociétés. C'est vraiment s'attaquer à d'énormes puissances que sont ces grandes sociétés, Veolia, Ondéo, Lassor, etc., qui contrôlent l'eau dans notre pays, et pas seulement l'eau, c'est aussi bien les médias, les pompes funèbres, le transport urbain, tout ce qui est de l'ordre des services publics sont contrôlés de près ou de loin, mais c'est souvent de très près par ces grandes sociétés. C'est dire si, aussi courageux que soient Michel et Yvan, ils ont bien du courage. Eh bien, il arrive que le courage soit récompensé. Ma maman disait toujours, le courage est toujours récompensé. J'en suis pas si sûr, mais en tous les cas, là, eh bien, il y a une récompense, c'est qu'ils sont battus, ils ont regardé leur facture d'eau de très près, et ils se sont aperçus qu'il y avait des choses un petit peu irrégulières, et ils se sont organisés avec des pétitions, avec le bulletin municipal, avec toute une action d'association militante, et ils ont obtenu que au Palais sur Vienne, on remunicipalise la régie de l'eau. Récit.
Alors, comment vous avez décidé de la lancer, cette association?
Je crois qu'il y a toujours une part d'hasard au départ. On se trouvait donc dans le midi chez des amis, donc à côté de Toulon, et on s'est trouvé en pleine bataille pour l'eau. Il se battait sur le prix de l'eau face à la Société Générale. Franchement, ça m'a sauté aux yeux en disant, attends, les problèmes qu'il pose ici, on a les mêmes, nous, ici, au palais. Et quand je suis revenu au palais, donc à la fin des vacances, on a ressorti toutes les factures, et c'est là où on découvre avec stupeur qu'on payait l'eau au palais plus cher qu'à Saint-Tropez, quoi. Donc on avait des... Alors dans le Var, ils ont pas d'eau, ils amènent l'eau par le canal de la Durance, c'est le barrage de Serponçon, c'est des travaux considérables. Nous, on se trouve dans une région qui est pleine d'eau, la région des mille sources, c'est le plateau de Mille Vaches, il y a de l'eau, il y a des sources partout, et on payait l'eau au palais entre 25 et 26 francs, c'est-à-dire qu'on était 1 à 2 francs de plus que dans le Var, ou avec tous les travaux. Voilà.
Alors voilà une facture de la sorte. Vous regardez une facture de la sorte et vous constatez quoi sur votre facture?
Alors, sur la facture de la sorte, ce que je constate, j'ai une facture de 93. Alors, je paye 2 euros le mètre cube, et en 2000, la facture est passée à 3,92 €. Donc, en 10 ans, ils ont doublé le prix de l'eau. Mais on s'y habitue.
Vivendi crée ce qui vous change la vie.
Oui, alors qui vous change la vie, je suis pas statisticien, mais je me demande si beaucoup de Français regardent à la loupe leur facture d'eau. Ceux qui habitent dans les appartements, ça fait partie des charges qu'ils payent de façon forfaitaire, sans trop s'intéresser à ces détails. Sauf que ces détails auxquels on s'intéresse pas, certains s'y intéressent, et notamment ces grandes compagnie. Au Palais sur Vienne, la régie de l'eau a été privatisée en 1992, et voilà, la remunicipalisation a eu lieu pour la satisfaction de tous il y a 2 ans, voilà, et ça marche très bien. La preuve, visite chez un voisin, les Sénigoux.
Donc, monsieur Sénigou est...
Je suis à la retraite depuis le mois de septembre.
Ah bon? Et donc là, vous ramassez le bois mort de ce matin?
Ben, ça a soufflé. Hein. Les branches mortes qui tombent, elles sont rouillées. Vous voyez, elles sont brûlées, quoi, d'acide. Ouais. C'est dingue. L'eau, bon, ils se sont battus pour les Palaisiens, pour qu'ils puissent avoir de l'eau au meilleur marché. Et d'après les factures, ben, elle a tout préparé, ma femme. Ben, là où on vous montrait ça, on y trouve notre compte, hein, que ce soit plus la sort. Hein.
Mais vous étiez...
Ah, moi, j'étais... L'eau, pour moi, doit être municipale, pas confiée à des sociétés privées. Ça.
Par principe.
Ah, non, c'est principe, oui. L'eau, c'est un élément primaire, vital, pour tout homme de la Terre. Et ce doit être... pas confier à des sociétés privées qui sont là pour le profit. Moi, je suis désolé. Bientôt, on va confier l'air qu'on respire à des sociétés privées. On se bat pour avoir du bon air maintenant. Mais c'est dingue, ça.
Vous vous battez pour avoir du bon air?
Ah, au palais, oui. Eh ben, pour que l'air du palais ne soit pas pollué. Mais bon, l'eau était devenue de plus en plus chère au palais. Il faut dire ce qui est. Vous allez le voir, facture à l'appui avec ma femme. Elle relève tout. Alors...
Alors vous avez sorti un petit papier?
Je vais simplement vous parler de ma dernière facture d'eau lorsque c'était la SORP. Et en 2002, par exemple, ma facture était de 466 euros pour 107 mètres cubes. Voilà. Alors si je compare maintenant, alors ensuite la mairie donc a repris suite à des actions notamment de l'association Barrage, et ma facture 2003, donc là ben, j'arrive à 327 euros pour 109 mètres cubes.
Donc c'est à peu près la même quantité.
Oui, 2 mètres cubes de plus, et puis la différence, voilà.
Le problème de l'eau est particulièrement intéressant en France parce que on a trois groupes. Ils gèrent 70 à 75% de l'eau en France. Et la France, du point de vue gestion de l'eau, est présentée en Europe comme un modèle. C'est en France où on a le plus privatisé l'eau.
Donc là, pour une fois, on est à l'avant-garde.
Dans le monde, il y a quatre sociétés qui gèrent la quasi-totalité de l'eau. La plus grosse qui est ici, dans les quatre sociétés, il y en a trois françaises. Et la plus grosse, donc Veolia, prétend gérer l'eau de 2 milliards 700 millions d'habitants sur les 8 milliards. C'est dire quel monstre c'est. Et c'est vrai qu'il parle à égalité avec les chefs d'État, etc.
Donc le numéro 1 français est aussi le numéro 1 mondial.
Le numéro 1 français, le numéro 1 mondial.
Derrière le quartier des affaires, par exemple, voici l'autre Shanghai. Ici, on partage un robinet à 6 ou 8 familles. Les autorités espèrent changer le système sans étape intermédiaire. S'investir en Chine, c'est bien sûr identifier des besoins, mais c'est aussi apprendre la patience. Le contrat qui lie Veolia à son partenaire chinois est de 50 ans.
Alors, le modèle français, on l'exporte dans les pays africains. On l'exporte dans les pays d'Amérique du Sud. On travaille beaucoup avec des pays comme le Brésil. Par exemple, Veolia est présente en Arabie Saoudite. Là, il y a vraiment un modèle qui reste un modèle négatif. Il faut que l'eau bien publique ne soit pas une marchandise.
Il y a à cette hégémonie, à cette puissance, une histoire. Et une histoire bien française sur laquelle s'est penché Marc Lémé. Marc Lémé est journaliste, il avait commencé par enquêter sur ces histoires d'eau, et il s'est spécialisé là-dedans, et maintenant il est un peu l'un des conseillers en remunicipalisation. Marc Lémé, une histoire.
En France, 80% de la population reçoit de l'eau qui est donc produite ou le plus souvent distribuée par Veolia, par Suez et par la Sor. Alors là, c'est vraiment une autre forme d'exception française, puisqu'à l'échelle mondiale, il y a seulement 5 à 6% de la population mondiale qui est desservie par des opérateurs privés.
Dans le monde, oui. C'est autour de 6% de la population qui est servie par le privé en matière d'eau.
Tout à fait.
Et en France, c'est 80% de la population.
80% pour la distribution de l'eau potable. Donc là, c'est vraiment une situation tout à fait particulière qui fait que on compte en France trois entreprises, dont deux qui sont devenues les leaders mondiaux des marchés, puisque c'est devenu des marchés de l'eau, de l'assainissement et désormais de l'environnement.
Comment vous expliquez la mainmise de ces entreprises privées sur un service public, sur le service public de l'eau ?
En fait, ce qui s'est passé au 19e siècle, les gouvernements de Napoléon III ont choisi de construire en priorité des écoles et des hôpitaux. Et la gestion de l'eau, etc., tout ça, un peu dans la lignée de ce qui s'était fait avec le chemin de fer dans la partie des années 1830-1840, on a considéré qu'on pouvait le confier à des entreprises privées. Donc la Générale des Eaux est créée par décret napoléonien en 1853, et il y a une première période de développement extrêmement rapide de ces entreprises, qui va en gros jusqu'aux années 1880, où elles commencent effectivement à engranger des contrats très importants. C'est de cette époque que date l'emprise de la Générale des Eaux, qui s'appelait déjà comme ça, sur les villes de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Nantes. Là, il y a une date extrêmement importante, c'est qu'en 1884, il y a une loi qui établit pour la première fois que les maires et les conseils municipaux devront être élus au suffrage universel. Et là, il y a une vraie rupture, il y a un vrai retour de balancier. Et les forces de gauche de l'époque, qui sont essentiellement radicales et socialistes, vont développer ce qu'on appellera plus tard le socialisme municipal. Et là, on n'imagine pas la violence des polémiques de l'époque. Dans l'Humanité de Jaurès, dans les années 10, il y a eu notamment une campagne de presse conduite par Jaurès, mais pendant 6 mois, pour se battre contre la privatisation de l'eau à Paris, mais avec une violence insoupçonnée. Ces entreprises étaient traitées de tous les noms. Enfin, c'est-à-dire qu'on les décrivait exactement pour ce qu'elles sont. Bon.
Donc, si on revient à notre chronologie, première phase, c'est la naissance de la Générale des Eaux, de la Lyonnaise des Eaux, de ces entreprises privées, 1850 à 1880. Ouais. Deuxième phase, ouais, suite aux élections municipales, au suffrage universel, il y a des retours en régime municipal. Mmh. Troisième phase, c'est...
Après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale également, tout le programme de nationalisation de 1945 va laisser de côté la Générale et la Lyonnaise des Eaux. Il y a un besoin d'infrastructures absolument énorme. Et donc, comme on n'a pas nationalisé ces entreprises, elles vont retrouver un nouvel élan. Et là, elles vont se développer, mais avec une rapidité absolument phénoménale. Et on a finalement l'avant-dernière phase qui va débuter à partir des lois de décentralisation de 82-84. Alors là, ça a été une véritable catastrophe. À partir de 82-84, quand Gaston Defferre, à l'Assemblée, proclame la libération des élus, là, on est entré dans une phase, alors il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est donc la première phase décentralisation 82-84, l'explosion des affaires politico-financières au début des années 90. C'est directement lié. Il n'y a plus de contrôle, et là, il y a des chiffres qui sont quand même extrêmement, emblématiques, quoi. De 1985 à 1995, la Générale des Eaux a engrangé davantage de contrats en France qu'elle ne l'avait fait depuis sa création en 1853 jusqu'en 1985. En l'espace de 10 ans, ils ont récolté davantage de contrats qu'en un siècle. Donc là, il y a une croissance absolument phénoménale de ces entreprises, et c'est dans la même période que partie, comme on vient de le voir, de l'eau de l'assainissement, elles ont successivement conquis tout ce qu'on appelle les services de la ville, c'est-à-dire les secteurs de la propreté, du chauffage, de la restauration, des transports, des parkings, des pompes funèbres, jusqu'en 2000, où elles s'en sont dessaisies. Ces trois entreprises étaient propriétaires de TF1, de M6, de Canal+. À un moment, elles ont détenu près de la moitié de l'édition française, et elles sont encore aujourd'hui parmi les tout premiers annonceurs publicitaires français.
Merci. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci de faire que ce jour soit le plus beau jour de notre vie. Merci pour tout. Et merci à l'eau du robinet.
Eh oui, l'eau du robinet, c'est aussi pour la vie. Alors tous les jours, les entreprises de l'eau avec les mairies nous délivrent une eau du robinet que nous pouvons consommer en toute confiance.
Merci. Merci pour l'eau.
C'était un message des entreprises de l'eau avec l'Association des maires de France.
Je fais le tour.
Bonjour. Yvan, c'est par là.
Et alors?
Vous allez bien? J'avais fait le tour.
J'ai dit non, parce qu'il y a trop mouillé, j'ai dit.
D'accord.
Asseyez-vous. Payez pas plus cher. Bon, alors ce que j'ai retrouvé dans mes affaires, voilà ce que j'ai retrouvé, les dates à peu près de ce que je donnais. Et soi-disant que je suis regardé. Ma lettre, vous l'avez retrouvée?
Oui.
Ah, ben oui.
Ce qui avait d'intéressant, c'est que dans cette lettre, vous étiez la première à attirer l'attention sur la question de l'abonnement, en disant, moi je suis une petite consommatrice d'eau, je consomme, vous consommez combien?
En ce moment, 12 mètres cubes.
Oui. Combien?
12 mètres cubes.
Par an?
Oui. Et vous en dépensez combien par mois? Oui, oui. Premièrement, moi je fais les économies. Je vais pas me doucher tous les matins et soirs. Je me douche une fois par semaine et puis je sens aussi bon que les autres. Enfin bref.
Vous touchez juste une petite retraite, c'est
une
ça?
Une demi-retraite, oui monsieur.
Une demi?
Une demi-retraite. Eh ben parce que mon mari il travaillait au chemin de fer, mais moi comme je n'ai pas travaillé, donc j'ai qu'une demi-retraite.
Et donc vous, quand vous avez vu les factures de la SOR, vous les avez vu augmenter tous les ans? Comment ça se passait? Vous faisiez attention à ça ou vous faisiez pas attention?
Oh ben si, quand même. Et puis c'était surtout la question d'abonnement. L'abonnement, on n'avait pas payé d'abonnement puisqu'on avait payé le compteur était acheté. Bon.
Et vous payez combien d'abonnements à ce moment-là?
Oh, je sais rien. Je vais vous dire ça à peu près. 500 000 lunettes. Oh merde. Voilà, 443 francs. Oui, parce que c'était pas c'était qu'en 2000.
Ça, c'était que l'abonnement?
C'était l'abonnement qui ne correspondait à aucun service.
Ça, c'était 500 francs, c'était pas l'eau, c'était juste l'abonnement?
C'était l'abonnement.
Pour une facture de 13 mètres cubes,
on payait, elle devait payer aux alentours de 750 francs par an. Dont 500 francs d'abonnement qui ne correspondaient à aucun service. Et c'était là le problème.
Donc là, vous avez une facture, mais c'est une facture municipale.
Ça, oui, c'est la municipale. Alors maintenant, vous voyez, toute nouveau net, je paye que 50 euros.
Vous avez consommé 17 mètres cubes et c'est 3 euros le mètre cube, donc ça fait 3 fois 17. Il n'y a plus du tout d'abonnement.
Voilà. Donc vous avez divisé votre facture par 3 presque.
Ah oui, facilement. Facilement. Oui.
Là, c'est la pluie qu'on entend dehors ?
Oui, je crois que ça résonne.
Vous n'avez pas besoin d'arroser votre jardin ici ?
Ah oh là, non, je récupère l'eau.
Donc ça, c'est encore pour faire des économies d'eau.
Ah ben, tout le temps, oui. Parce que mon jardin, il n'a pas été beaucoup arrosé qu'avec que de l'eau de la pluie. Hein. Et c'est tout. Pour l'ensemble, c'est reparti, mes enfants. Ça buffe.
Donc vous faites un petit jardin derrière, des haricots, vous avez ?
Oui.
Ouh là 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 là.
Je m'en sers pour mes cabinets, je m'en sers pour rincer. Là-haut, c'est la même chose.
Vous vous en servez pour vos cabinets ?
Ouais, je prends mon petit seau et je vide. Je tire pas la chasse.
Vous êtes vraiment une obsédée de l'économie d'eau, vous.
Ah, mais dites donc, c'est moi qui paye. Hein. J'ai deux arrosoirs, là, que j'ai lavé la bol bois. Voilà.
Vous avez lavé votre entrée avec l'eau de pluie ?
La pluie, là, avec l'eau, là, oui. Oh là là, les enfants. Tout à l'heure, c'était pareil. J'étais au milieu de l'allée, j'ai cru que j'allais être emportée.
Il n'y a pas de petite économie avec Madame Thierry. Alors, remunicipalisation au Palais-sur-Vienne, c'est pas le seul endroit en France. On va voir d'autres endroits qui ont remunicipalisé. Et puis, c'est une grande question qui travaille beaucoup de régions, de municipalités. Et puis, il y a des échéances prochainement. On verra que c'est un problème très important, un sujet très important pour la bonne ville de Paris. En 2006, l'UFC Que Choisir a publié une enquête qui a fait un certain bruit en montrant que dans 31 villes françaises, on note des écarts étranges de tarifs en matière d'eau. Par exemple, à Lyon, eh bien la ville de Lyon fait payer son eau presque deux fois plus cher que son prix de revient. C'est pas la ville de Lyon qui fait payer, c'est ces grosses sociétés multinationales à Nantes, Strasbourg, c'est une fois et demi plus cher que le prix de revient. Et en Ile-de-France, record, deux fois et demi plus cher. Alors, bien sûr, les opérateurs qui sont visés par ces publications d'enquête, la main sur le cœur et bourrés d'arguments, disent « mais non, vous confondez, vous avez quel sujet ?» C'est quand même un sujet important et on va comprendre avec Marc Lémé, on va essayer de comprendre, il va essayer de nous faire comprendre comment on en est arrivé à ces remunicipalisations.
Vous avez établi un peu les différentes étapes qu'il y a eu en France. D'abord, naissance et croissance de la Générale des Eaux, retour en service municipal, à nouveau, après la Deuxième Guerre mondiale, une très forte croissance. Est-ce que vous pensez qu'il s'annonce aujourd'hui un nouveau retour de balancier vers un service public de l'eau ?
Alors, ce qui se passe en France depuis maintenant 4 à 5 ans, disons, c'est il y a eu une forte mobilisation des citoyens. Alors, des associations dans des petits villages, dans des plus grandes villes, des associations de défense de l'environnement, des associations de consommateurs, ATTAC, Les Verts, La Ligue, enfin bon. Donc, tout ça, ça a concouru à ce qu'il y a une remise en cause, depuis quelques années, beaucoup plus importante de ce modèle de délégation de service public. Alors là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est il y a à la fois des associations qui se créent, des collectifs, alors des élus aussi, parce que quand même les élus sont de plus en plus informés des dérives du système. Et comme il y a une pression financière de plus en plus importante, vous ne pouvez pas les yeux fermés laisser les entreprises augmenter le prix de l'eau à l'infini, etc. Les gens qui vous ont élus vont vous rappeler à l'ordre au bout d'un moment. Donc ça devient très sensible pour les élus aussi.
Tous les éléments sont rassemblés là pour un retour
Non, je dirais pas, non, faut pas exagérer, parce que statistiquement aujourd'hui, il y a aujourd'hui 9000 contrats en France. On est dans une période de renouvellement de 5 à 600 contrats par an. On est encore aujourd'hui dans un système où 95% de ces contrats sont reconduits au même délégataire. Si c'était Veolia qui était là depuis 30 ans, c'est lui qui continue. 2 ou 3%, ça passe de Veolia ou Suez, ou l'inverse. On a une toute petite minorité de contrats qui sont impartis à des toutes petites entreprises locales, etc. Et les retours en régie se comptent encore sur les doigts d'une main. Sauf que c'est très emblématique, très fort, à chaque fois que ça se passe, il y a un véritable impact sur la population, parce que ça se traduit, c'est imparable, hein, très souvent une diminution du prix de l'eau parce que les bénéfices servis aux actionnaires disparaissent, une amélioration du service à l'usager parce qu'il y a moins de taux de fuite, il y a un meilleur entretien, il y a davantage de renouvellement des infrastructures, donc localement ça fait de l'effet. Et donc quand une ville a accompli ce boulot-là, bah, tout le monde constate, donc ça fait un peu tache d'huile, quoi.
Alors comment vous expliquez le décalage entre seulement 2% des contrats qui passent du secteur privé en régie publique?
C'est vrai qu'il y a une mobilisation citoyenne depuis plusieurs années, mais sont dramatiquement absents les syndicats, les partis politiques, l'université, le monde de la recherche, qui ne n'accompagnent pas ce mouvement de retour à une gestion publique. On a là vraiment des grands absents, des muets du sérail. Alors je vous laisse le soin de tirer les conclusions de leur absence et de leur silence. Il n'y a pas un parti politique qui ait vraiment, mais sérieusement, mis ça au premier plan de son projet. Il n'y a pas un syndicat qui s'engage réellement en ayant travaillé pour un retour en gestion publique de l'eau. L'université, elle n'est pas là. Ben, les labos universitaires travaillent, hein, notamment pour ces entreprises, le plus souvent. Hein. Donc ça fait, ce sont quand même des acteurs de poids qui ne prennent pas vraiment position.
Des acteurs de poids qui ne prennent pas vraiment position, nous dit Marc Lémé. Ben voilà, ces grandes compagnies très 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 puissantes ont les moyens de un petit peu les syndicats, mais indirectement, en publiant des pages de pub dans des revues professionnelles. Les politiques avec des droits d'entrée, on aide une municipalité. Lorsque on signe le contrat pour et que la régie est attribué à telle ou telle société privée, eh bien, il y a un droit d'entrée, c'est-à-dire que la municipalité pourra, pour le plus grand bien des administrés, construire un gymnase, une piscine, un tennis, et puis sans augmentation notoire des impôts. Et on s'aperçoit, ces impôts, tout ça, qui le paye? Eh bien, c'est sur les factures, mais il faudra du temps pour qu'on s'en aperçoive, on s'en est aperçu, et c'est ce qui explique en partie justement cette remunicipalisation. Quant aux médias, ces multinationales sont propriétaires tout simplement des médias, ce qui ne va pas quand même sans incidence sur les lignes rédactionnelles, ou bien alors, sont des annonceurs de premier plan, et ce qui ne va pas non plus sans incidence sur les lignes rédactionnelles, ce qui fait qu'on est, c'est des fois des petites assos comme ça dans un petit coin qui sont des poils à gratter extrêmement têtus, des arapèdes qui finissent parfois par l'emporter, même si effectivement il arrive que le terroir n'y soit pas pour rien.
Donc là on est toujours en Haute-Vienne ici?
Oui, on est toujours en Haute-Vienne, on se rapproche de toute la région des Moutiers. Et cette région des Moutiers et du plateau de Millevaches a une caractéristique importante, parce que c'était dans cette région que se trouvait le fameux maquis de Guingouin, donc qui a été désigné par De Gaulle, donc ce qui est quand même pas une petite chose, comme le premier maquis de France. Ici, c'était un domaine où il s'était nommé le préfet du maquis, et où les Allemands, pendant toute la guerre, n'ont pas pu rentrer depuis 1942. C'est le préfet du maquis qui déterminait les prix des aliments, qui déterminait, etc. Et ça a été une histoire. C'est une terre de résistance. Voilà, ici on rentre dans une terre de résistance, ça c'est important. Alors, cette terre de résistance, elle a tout un passé, parce que c'est vrai que c'était d'ici que partaient les maçons qui ont construit Paris, ces maçons du Limousin, donc les Limousinons, partaient de la campagne et allaient construire Paris pendant la période d'été et revenaient en hiver. Et c'est vrai qu'ils sont revenus après la commune de Paris, ils sont venus, et il y a beaucoup d'anciens de la commune de Paris qui se sont réinstallés dans leur village, mais avec les idées de la commune de Paris. Donc ce qui fait qu'ici, on a toujours été une terre rebelle. Ici, c'est pas un hasard si, bon, la CGT en 1905 s'est créée en Limousin, à Limoges. Mais ça reste une terre rebelle avec un certain nombre d'élus un peu alternatifs, un peu qui font sa vote à gauche très largement. Ça reste une terre de résistance profonde. Et c'est pas un hasard si pas très loin d'ici, à Gensiou, il y a un monument de la guerre de 14-18 qui n'est pas reconnu par les armées, parce qu'il représente un enfant qui est en sabot, qui tend le poing et écrit dessous « Maudite soit la guerre ». Et à Gensiou, tous les ans, au mois de novembre, le 11 novembre, c'est là où se réunit la manifestation nationale des pacifistes. Là, on arrive à l'étang de Bujaleuf. C'est un barrage qui fournit de l'électricité encore. Donc, les gens ici, les collectifs se battent pour garder ces barrages que l'EDF a tendance à fermer. Tout au long de la Vienne, il y avait des petits barrages qui fournissent de l'électricité, mais en petite quantité. Et là, depuis les nouvelles normes européennes, l'EDF n'est plus obligé d'acheter de l'électricité à ces barrages. Ils sont condamnés de leur belle mort. On a déjà plusieurs barrages qui ont été fermés et qui ne fournissent plus d'électricité. Oui, bien sûr.
Il y a la plaque numérologique. Ça, ah, Michel, tu voulais monter? Attends. Oh là là là. Je suis avec mes seringues.
Tu te shoots là ou quoi?
Vous êtes maire et agriculteur, c'est ça?
Effectivement. La commune a fait l'expérience d'une période sous l'égide de la CGE. Économiquement, le coût de l'eau était relativement élevé et sans que des investissements qui étaient nécessaires à l'époque soient effectués sur le réseau.
Il y avait des investissements qui n'étaient pas effectués?
Ben, nous avions un réseau relativement obsolète ou vieillissant et une pertinence de rendement de l'ordre de 50-55%.
Un rendement de 50%, ça veut dire qu'il y a 1 litre sur 2 qui arrive dans le robinet et 1 litre sur 2 qui part en fuite, c'est ça?
En clair, c'est ça. C'était dû à des ruptures de canalisation qui, multipliées par un grand nombre, nous donnent un volume d'eau perdu exorbitant. Et
qu'est-ce qui change quant aux factures, quant à tout ça par rapport à quand c'était Veolia, Vivendi?
Ben écoutez, aujourd'hui on a la recette de l'eau vendue et les investissements. Hier nous n'avions pas de recette et nous aurions eu des investissements à faire que malheureusement ont été repoussés.
Comment on peut accepter que ça soit d'autres qui perçoivent des recettes alors que c'est vous qui faites les dépenses? Comment?
La question est excellente. Personnellement, j'ai plus grande difficulté à accepter un point de vue de cette nature-là.
Là, il y a un bulldozer, c'est quoi?
Ben, nous arrivons sur le chantier haut, sur une pose de canalisation qui va mettre fin à notre dernière phase d'objectif canalisation.
Voilà, objectif, canalisation pour Monsieur Dollet, le maire de Bujaleuf. Et alors là, parmi les agents municipaux, on rencontre Monsieur Frédéric, qui sait de quoi il cause, Monsieur Frédéric.
Donc il y a une tranchée qui est creusée le long d'un champ.
Nous changeons l'approvisionnement d'une ferme. Le tronçon d'avant était défaillant, d'où les fuites très nombreuses.
Donc là, en tenue fluorescente, c'est des employés de la ville?
Des employés municipaux qui, cette semaine, sont concentrés sur ce type de travail.
Bonjour.
Bonjour. Alors là, nous allons faire une extension de réseau pour alimenter une maison qui se trouve à 450 mètres.
Et c'est vous qui étiez technicien de Veolia auparavant et voilà, qui est passé en régie municipale?
Voilà.
Mais pour quelle raison?
Pour en arriver à faire quelque chose de bien.
Parce que quand vous étiez chez Vivendi, c'était pas bien?
Non. En fait, Vivendi, vous êtes un pion. Aujourd'hui, vous êtes là. Demain, on vous envoie à l'autre bout de la France parce qu'on en a décidé ainsi. Vous avez un numéro, un matricule d'ailleurs chez Vivendi. Vous avez un matricule et puis...
Vous étiez matricule combien?
J'étais en matricule 122, je sais plus. Après, c'était quelque chose comme ça. Le gros problème, c'est vous êtes ici. Aujourd'hui, on vous dit ben non, vous allez plus être ici parce qu'on a besoin de vous autre part. Et ben faut y aller. Tout ce que ça encombre derrière. Hein, vous avez votre femme qui perd son emploi. C'était ça le gros problème. Hein. Maintenant, ça fait depuis 2002. Oui, bon ben j'ai acheté une maison hein, et puis j'ai mes trois enfants et je vis très bien ici à Bujaloff.
Et vous avez passé combien d'années alors chez Vivendi?
8 ans. 8 ans chez Vivendi, ouais.
Là, bon, en plus il pleut là,
oui.
C'est vraiment le temps pour faire un reportage sur l'eau.
Moi je voyais que on avait des réseaux qui étaient en perdition et puis avec des rendements de réseau qui étaient qu'on n'avait jamais vu, 40% de rendement de réseau, donc 60% de fuite.
C'est-à-dire que 6 litres sur 10 partaient dans le sol,
voilà, en fuite. Une perte énorme et puis vous voyez aujourd'hui maintenant avec les sécheresses qu'il y a et tout, on se demande comment on aurait pu faire quoi. Si on avait continué avec la Générale des Eaux, il aurait fallu rouler des camions d'eau. Hein. Et puis non, on faisait rien pour la commune, il n'y avait rien investi. Par contre, eux, ça tombait quoi. Puis, en fait, je me suis rendu compte qu'on avait affaire à des gens qui pensaient qu'à l'argent quoi. Par contre, c'est vrai que maintenant, on s'est donné les moyens de faire bien, quoi. On voulait de l'investissement, on en a fait. On a acheté un tracteur pelle tout neuf. On a voulu faire de la facturation comme on fait de la facturation aujourd'hui, c'est-à-dire on a un terminal de saisie portable, on relève chez les gens, on fait un suivi qualité d'eau. Donc, on a un programme de suivi qualité d'eau qu'on fait toutes les semaines. On surveille notre eau.
Et vous avez connu le privé,
voilà.
Vous connaissez aujourd'hui le public.
Attention, j'ai pas dit que la Compagnie Générale des Eaux, c'était des gens qui savaient rien faire et tout, hein. Au contraire. Mais par contre, je regrette beaucoup, c'est qu'ils soient dirigés par des banquiers. Et puis beaucoup de gens qui sont improductifs.
C'est-à-dire, c'est quoi des improductifs?
Et des improductifs, c'est des gens qu'on sait pas trop ce qu'ils font. Ouais. Ils sont dans des bureaux, on leur donne un bureau, ils arrivent dans des directions régionales et ils sont payés, bien sûr, des salaires de 4 gars d'un seul coup et puis, on sait pas trop ce qu'ils font.
Quand vous étiez chez Vivendi, il y avait plus de personnel pour le service commercial que pour le service de...
Oui, bien sûr. Il n'y avait pas beaucoup de personnes sur le terrain, puis au détriment des réseaux, bien sûr. Et comment, moi, je vous dis, aujourd'hui, je ne ferai pas marche arrière. Je ne reviendrai pas dans le privé. Parce que, je vous dis, vous avez affaire à des banquiers. On travaille... c'est des banquiers qui dirigent des sociétés. Comme je vous disais, on leur parle d'une bouche à clé, d'une vanne, d'un tuyau, de polyéthylène ou PVC. Et ils vous regardent avec des... On est carrément à l'autre bout de la réalité, quoi.
Ils parlent pas comme des industriels, ils parlent plus comme des banquiers, comme des...
Exactement. Voilà. Et tout ça pour satisfaire des actionnaires derrière.
Et ça, vous le sentiez quand vous étiez chez Vivendi?
Mais carrément. Oui.
Belle musique, oh que c'est joli. Merci à tous, merci à toutes, Madame Briquet, Gilles Martin, Yvan et Michel Tricard, Madame Chauffier, Monsieur et Madame Sénigou, Madame Thierry, Michel Paquet, Monsieur Delay, Frédéric, et au journal Cru Citron. Merci à tous. C'était un reportage de François Ruffin, à lire, indispensable, dossier de l'eau de Marc Lémé, aux éditions du Seuil, et les multinationales de l'eau de Roger Langlais et Jean-Luc Touly, chez Fayard. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire les commentaires que vous souhaitez, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org. Les grands événements à venir ce soir à 20h30 au cinéma Le Régent à Saint-Gaudens dans la Haute-Garonne, Chomsky et compagnie en avant-première, en présence d'Olivier Azam, lui-même le co-réalisateur du film. Et puis demain, au théâtre de Jazet, à Paris, place de la République, à Paris 41, boulevard du Temple, Paris 3e, métro République, téléphone 01 48 87 52 55, je répète, 01 48 87 52 55, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, le scandaleux procès contre Beka. Qui est Beka? Bernard Kouchner, c'est son procès demain au théâtre de Jazet et ça promet. Appelez le 01 48 87 52 55 pour retenir vos places et on se retrouvera demain soir à 20h exactement. Merci à toutes et à tous. C'était Patrick Henry et Sophie Moreno qui étaient à la technique aujourd'hui. Coyen Guyenne et Raphaël Moutard de réaliser cette émission assistée de Charlotte Perry et Agnès Lebotte. À dans vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.